voyante, à la plastique de rêve.
De l'argent, des postiches, des micros.
They visit them, pray with them, get them.
L'agent 90-60-90 en référence à son physique voluptueux.
Encore aujourd'hui, on s'interroge. Qui est vraiment Anna Chapman? Cette jolie Russe arrêtée aux États-Unis pour espionnage en 2010, avant de faire la une des tabloïds et de devenir une star dans son pays.
Je ne m'étais jamais imaginée en star de la télé. La plupart des gens rêvent d'être des stars de la télé pour être célèbres. Moi, ça ne m'est jamais arrivé.
Flame-haired femme fatale and undercover party girl. Chapman was, well, the best looking of the Russian spies.
Anna Chapman.
Anna Chapman n'est-elle qu'une arriviste, une midinette un peu kitsch, tombée par hasard dans l'espionnage pour n'y faire que des gaffes? Ou au contraire, la jeune femme, plus maligne qu'elle n'en a l'air, incarne-t-elle l'espionnage New Age dans la Russie décomplexée de Vladimir Poutine?
Comparé à ce qui se passe aujourd'hui, la guerre froide du XXe siècle, c'était des enfants jouant dans un bac à sable.
La jolie Rousse a beau battre des cils et jeter des regards de biche, ses déclarations font parfois froid dans le dos. Seule certitude, Anna Chapman, en juin 2010, a échappé de peu à de longues années de prison. Âgée alors de 28 ans, totalement inconnue, cette jeune Russe qui vit à New York depuis 6 mois fait partie des 10 espions arrêtés par le FBI le 28 juin 2010 dans le cadre de l'opération Histoire de fantômes, Operation Ghost Stories. Alors que la guerre froide et ses espions semblent de lointains souvenirs, ce coup de filet stupéfie l'Amérique. D'autant que quelques jours auparavant, le président russe était reçu aux États-Unis en visite officielle.
La semaine dernière encore, le président Obama et son homologue russe Medvedev souriaient en mangeant des hamburgers, du jamais vu dans les relations russo-américaines. Mais ce qui vient de se passer semble sortir tout droit de la guerre froide. 10 agents des renseignements russes ont été arrêtés, soupçonnés d'espionnage aux États-Unis.
Cela semble très bizarre dans le monde d'aujourd'hui. Mais vous savez, on ne sait jamais qui est vraiment son voisin.
J'ai vu des Russes, oui, qui habitaient de l'autre côté de la rue. Mais je pensais que c'était des étudiants, quelque chose comme ça. J'aurais jamais pensé des espions.
C'est le plus gros réseau d'espions découvert depuis la fin de la guerre froide. Ces hommes et ces femmes, en apparence des Américains ordinaires, sont ce qu'on appelle des illégaux. Nielegal en russe, ou agent dormant. Ils vivent aux États-Unis souvent depuis des années, sans couverture diplomatique, sous des noms et des professions d'emprunt. Leur mission est de se fondre dans le paysage tout en glanant le maximum d'informations. Une tradition qui remonte à l'espionnage soviétique des années 30. Parmi eux, Donald Heathfield et Tracy Foley. De leur vrai nom, Andrei Bezrukov et Elena Vavilova, de nationalité soi-disant canadienne. Leur nouvelle identité, c'est glauque, ils l'avaient usurpée à des enfants canadiens morts en bas âge. Avant leur arrestation, ils vivaient donc aux États-Unis, dans une petite ville du Massachusetts, avec leurs deux fils qui, semble-t-il, ignoraient tout de l'espionnage de papa-maman. Autre couple d'illégaux, Richard et Cynthia Murphy, en réalité Vladimir et Lydia Gouriev, qui avec leurs deux enfants formaient eux aussi une famille américaine idéale. Maison avec jardin achetée à crédit dans une banlieue proprette du New Jersey, barbecue le dimanche entre voisins, au menu hamburgers et ice cream. Madame Murphy, qui travaillait dans une banque, avait bien un petit accent. Un accent scandinave, disait-elle. Cette toile peinte, trop parfaite, a volé en éclats en juin 2010 avec l'irruption du FBI. La révélation de cette histoire fascinante va, on le comprend, inspirer un producteur de télé, Joe Weisberg, un ancien de la CIA, qui va imaginer et créer la série devenue culte The Americans. Dans la saison 1 de la série, les Jennings, un couple d'illégaux qui ressemble étrangement aux Murphy de la vraie vie, rendent visite à leurs voisins qui viennent d'emménager, dans la plus pure tradition américaine. Mais une surprise les attend.
Bonjour, vous êtes venus.
On ne reste pas, on vous apporte des brownies et on vient vous souhaiter la bienvenue.
Entrez, je vous en prie. Entrez, je peux vous débarrasser. Merci.
De rien.
Ça, c'est un bon brownie, chérie.
Oui.
Alors, on a choisi un quartier agréable, dites-moi.
Ah, franchement, ici, il n'y a pas mieux. C'est propre, c'est sûr et c'est pas trop mal desservi. Vous travaillez en ville?
Tout à fait.
Vous faites quoi dans la ville, Stan?
Je travaille au FBI.
Au FBI? Waouh, alors vous attrapez les braqueurs de banque, c'est ça?
En fait, je travaille au renseignement, maintenant.
Au renseignement, c'est contre les espions, ça?
Exact.
Ah, il faut surtout pas que je vienne vous espionner, alors.
Surtout si vous êtes russe.
Ah oui, il paraît que c'est les pires, ceux-là.
Sans aucun doute, Philippe. Sans aucun doute.
Retour en juin 2010. Le FBI est perplexe. Qu'est-ce que Moscou attendait de ses agents? Sûrement beaucoup, car installer et maintenir des illégaux à l'étranger coûte cher. Et quels renseignements ont-ils effectivement recueillis? Si les médias rivalisent d'imagination, les premiers résultats de l'enquête du FBI, eux, sont déconcertants. De l'encre invisible, quelques codes chiffrés, de l'argent échangé dans des mallettes, de l'espionnage au petit pied, quoi. Le couple Heathfield-Foley fréquentait les milieux universitaires de Boston, les Murphy, ceux de la finance de New York. Mais les renseignements qu'ils fournissaient à Moscou étaient de toute évidence d'une affligeante banalité. Des espions, ça, s'esclave l'Amérique. Des clowns, oui. Du niveau de Max la Menace, Get Smart, la comédie sortie 2 ans plus tôt.
Attendez, qu'est-ce que vous faites?
Je vais tenter une diversion, aller chercher de l'aide.
Je suis pas sûre que ce soit...
Chut.
Je crois que t'en échappé un.
C'est pas le chef?
Si, c'est lui.
Et Anna Chapman dans tout ça. Arrêtée en même temps que les 9 autres, on voit bien qu'elle a un profil différent. Jeune, célibataire, elle vit à New York sous son vrai nom. Elle a gardé celui de son ex-mari, Chapman, un Britannique dont elle a divorcé. Anna Kouchchenko, c'est son nom de naissance, est née en Russie en 1982, du temps donc de l'URSS. Son père est un ancien cadre du KGB, les services secrets soviétiques. Tel père, telle fille, peut-être. En 2000, à 18 ans, la jeune diplômée d'économie quitte la Russie pour Londres et sa vie trépidante. C'est dans une rave party qu'elle rencontre Alex Chapman, le fils d'un businessman anglais. Ils se marient, ce qui a l'avantage de donner à Anna la nationalité britannique. Mais en 2005, les époux divorcent. D'après son mari, Anna, devenue distante, s'était mise à préférer la compagnie de riches russes. Elle finit par rentrer dans son pays. Que fait-elle pendant 1 an? Un entraînement intensif dans les services secrets, diront certains. En tout cas, en 2007, elle s'installe pour de bon aux États-Unis. Anna Chapman a aussi ceci de particulier qui aura son importance dans l'histoire, c'est qu'elle est jolie et très sexy. Sur les photos parues dans la presse, juste après son arrestation, la jeune Russe porte un vieux t-shirt, ses cheveux roux sont sales, elle n'est pas maquillée. Mais rapidement, les médias dénichent sur sa page Facebook des photos et des vidéos plus dénudées et glamour de celle qu'il surnomme déjà la femme fatale du groupe, la nouvelle Mata Hari. Officiellement, Chapman est PDG d'une société immobilière qui cherche des appartements pour des hommes d'affaires pressés. Son bureau est situé rien moins qu'au 20 Exchange Place Building, un des plus beaux gratte-ciel de Manhattan. C'est sans doute là qu'un mois seulement après son arrivée à New York, la jeune start-upeuse est interviewée par une télé américaine sur son business.
My name is Anna Chapman.
Je m'appelle Anna Chapman.
The name of my company is Property
Ma société
Finder.
S'appelle Property Finder. Et je crois que c'est le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie. Je ne reviendrai en arrière pour rien au monde. Ça a été un challenge incroyable dans ma vie quand j'ai vraiment décidé ce que je voulais faire. J'étais tellement heureuse, tellement excitée. C'était la seule chose à laquelle je pouvais penser.
Anna Chapman est jolie, sympathique, pleine d'énergie et d'ambition. Comment ne pas tomber sous le charme? Mais quelle espionne est-elle? Comme ses collègues, Anna Chapman, à première vue, a tout d'une amateur. On apprend que tous les mercredis, elle s'installait dans un café ou une librairie du West Village et avec son ordinateur, faisait semblant de travailler. Elle communiquait en réalité avec son officier traitant, installé au même moment à proximité, dans le même lieu ou dans une fourgonnette à l'extérieur. Elle envoyait par Wi-Fi ses informations sécurisées, se levait et quittait les lieux aussi simplement qu'elle était venue. Mais Anna Chapman n'a pas vu que pendant plusieurs mois, elle était surveillée par le FBI, jusqu'au jour fatal du 27 juin 2010. Ce jour-là, Anna a rendez-vous dans un café de Manhattan avec un inconnu qui se présente comme un employé du consulat russe. En réalité, c'est un agent du FBI. La scène, filmée, visible quelques mois plus tard sur YouTube, est assez poignante. Anna Chapman, en t-shirt, jean et baskets, a l'air nerveuse. Nerveuse, mais sûrement pas assez méfiante, car elle n'échappera pas au piège.
Qui êtes-vous ?
Je m'appelle Roman. J'ai une mission urgente à vous confier. Une jeune femme qui est dans la même situation que vous a besoin d'un passeport américain. Je vous charge de le lui apporter.
Comment je peux être sûre de qui vous êtes ? Vous êtes sûre que nous ne sommes pas surveillés ?
Ne vous inquiétez pas. C'est une mission très simple. Vous retrouverez cette femme demain dans un bar de downtown Manhattan. Vous lui demanderez « On ne s'est pas déjà rencontré en Californie ?» Et elle vous répondra « Non, ce ne serait pas plutôt chez les Hamptons. » Et vous lui remettrez son passeport. Vous vous sentez capable de le faire ?
Évidemment. Et puisque je vous vois, j'ai un problème. Mon ordinateur est en panne.
Ah, vous l'avez avec vous ? Oui, je peux vous le faire réparer. Donnez-le-moi.
Les deux se séparent. L'agent du FBI n'en revient pas. Pas très pro, cette espionne qui confie son ordinateur à un inconnu. Quelques heures plus tard, Anna Chapman est arrêtée. Le procureur, pourtant, qui l'interrogera, affirmera à son propos qu'elle est un agent hautement entraîné. Il y a décidément un mystère, Anna Chapman. Moins de deux semaines plus tard, le 8 juillet 2010, les 10 espions arrêtés plaident coupables et sont inculpés d'avoir comploté comme agent secret aux États-Unis et également de blanchiment. Mais pas d'espionnage, car rien ne prouve qu'ils ont eu accès à des renseignements classés secrets d'État. Ils risquent tout de même 25 ans de prison. Mais le lendemain, coup de théâtre.
Dans la crise d'espionnage entre États-Unis et Russie, les 10 agents accusés de travailler pour les services secrets russes ont été expulsés vers Moscou il y a quelques heures. Ils ont accepté hier de plaider coupables devant un tribunal américain. En échange, la Russie va libérer 4 personnes qu'elle soupçonne d'espionnage au profit des Occidentaux.
Personne ne sait pour l'heure ce qu'il va advenir des 4 ressortissants russes expulsés de Moscou. En tout cas, les autorités américaines conservent un silence absolu. Ce matin, la presse revient sur l'incroyable rapidité avec laquelle l'affaire a été réglée entre Washington et Moscou, et la plupart des analystes y voient la confirmation de la solidité des relations entre les deux capitales. Washington, Michel Zer, France Inter.
Pour pouvoir partir, les espions ont dû s'engager à ne pas revenir aux États-Unis et à ne pas vendre leur histoire à une maison d'édition ou à un studio de cinéma, à moins d'en verser les dividendes à l'État américain.
sur le tarmac de l'aéroport de Vienne, un reporter d'ABC News assiste à l'échange des espions.
L'échange a eu lieu sur le tarmac de l'aéroport de Vienne. Les avions russes et américains parqués l'un à côté de l'autre. Dans l'avion de droite, Vision Air, affrété par le gouvernement américain, se trouvent les 10 espions russes qui arrivent de New York. L'avion à gauche est l'avion du gouvernement russe avec à bord les 4 espions que les Russes ont échangés. Une fois que l'échange est terminé, l'avion russe redécolle pour Moscou et l'avion américain repart pour les États-Unis, mettant un terme à la saga des 12 jours qui a rappelé au monde que les agents secrets et l'encre invisible n'appartiennent pas qu'au passé. Les 10 espions russes étaient chargés par les Américains de délivrer un message au service de renseignement russe à Moscou. Si vous venez en Amérique pour espionner les Américains, vous serez découvert et arrêté.
Les 4 espions relâchés par la Russie sont, sans aucun doute, de plus gros calibre. Mais, fait totalement inédit, ils sont tous russes, dont 3 travaillaient pour l'Occident. Igor Soutiagin, Alexandre Zaporozhsky, Gennady Vassilenko et enfin Sergueï Skripal, un ex-colonel condamné à 13 ans de prison pour avoir travaillé pour les Britanniques, et qui reviendra dans l'actualité en 2018, quand en Angleterre, il sera victime avec sa fille d'une tentative d'empoisonnement. Pendant ce temps, les espions russes atterrissent à Moscou.
Eh bien, maintenant, ce qui les attend, en fait, ces 10 personnes, c'est une semaine bien chargée à Moscou, au programme de longs interrogatoires, notamment pour savoir comment ils ont pu être démasqués par les services américains et savoir aussi s'ils ont la moindre collusion avec les services secrets américains et pourraient servir d'agents doubles en Russie. Alors, une fois après ces vérifications, ils pourront rentrer chez eux. Les services russes leur proposeraient une rente à vie de 2 000 $, ce qui est pas mal en Russie, et un appartement à leur disposition.
Mais le président du gouvernement, Vladimir Poutine, paraît-il, est furieux. Avec l'arrestation de cette bande de clowns, je cite, le SVR, Service de renseignement extérieur de la Russie, s'est ridiculisé et risque de payer cher cet échec. Le retour s'annonce donc morose pour les espions. D'après un analyste militaire russe, interviewé par Libération,
à l'époque soviétique, ils auraient été immédiatement envoyés au goulag, ou même fusillés pour trahison ou mise en danger de la sécurité nationale. Ils vont surtout devoir se faire oublier et se tenir tranquilles. Je ne crois pas qu'on entende beaucoup parler d'eux ici.
Eh bien, c'est tout le contraire qui va se passer. À Moscou, les 10 espions sont accueillis en héros par Vladimir Poutine, qui va les décorer et déclare dans une conférence de presse
« Nos espions ont sacrifié leur vie pour servir la patrie. Je les ai rencontrés. Nous avons parlé de la vie. Ensemble, nous avons chanté « Par où commence la patrie ?»
Чего начинается родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять.
Une chanson patriotique des années 60, très populaire à l'époque soviétique. Extraite du film Le bouclier et l'épée, le film qui, paraît-il, aurait donné envie au petit Poutine de s'engager au KGB. À la même conférence de presse, Vladimir Poutine révèle que c'est un traître qui a permis l'arrestation des agents et il ajoute, menaçant
« Les traîtres finissent toujours mal. »
Puis il poursuit son hommage aux 10 espions.
« Ils vont travailler. Je suis sûr qu'ils auront de beaux postes et que leur vie sera intéressante et éclatante. »
Anna Chapman entend 5 sur 5 ce message qui lui va comme un gant. En l'espace de quelques mois, celle qui a été piégée comme une bleue par le FBI et grillée comme espionne devient une véritable star en Russie. À la télé, dans la mode et surtout en bon petit soldat de la propagande du pouvoir. RFI, le 18 janvier 2011.
Pour les Russes, Anna Chapman est d'abord l'agent 90-60-90 en référence à son physique voluptueux. En octobre, le magazine russe Maxim l'a photographiée en James Bond Girl. Le clip est des plus alléchants. Pose lascive, lingerie fine et revolver, le tout en rouge et noir, ses couleurs fétiches. La mystérieuse jeune femme, bientôt 29 ans, se fait fort d'être là où on ne l'attend pas, à Baïkonour, la base de lancement des fusées spatiales, ou encore fin décembre, à la convention de la Jeune Garde de Russie Unie, le mouvement de jeunesse du parti de Vladimir Poutine.
Je veux que nous apprenions ensemble à être plus positifs. Notre société aurait moins de problèmes si chacun de nous se mettait à sourire. Alors ensemble, changeons le pays en changeant nous-mêmes. Soyez heureux.
La voilà donc membre du Conseil civique de la Jeune Garde. Pour beaucoup d'observateurs, c'est Vladimir Poutine qui a voulu cette nomination. Faux, répond le président du mouvement, Timur Prokopienko.
Outre son succès, son statut d'héroïne de sa génération, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Elle est en train d'écrire un livre sur l'innovation. Elle a des propositions concrètes en réponse au discours du président Medvedev sur l'aide à l'enfance en détresse. C'est avec tout ça qu'elle nous a convaincus.
Anna Chapman a l'art de jouer sur tous les tableaux. D'un côté, elle se fait photographier pour des magazines masculins dans des tenues hyper sexy. De l'autre, elle pose à côté de sa grand-mère en prodiguant des propos moralisateurs.
Personne ne peut être heureux s'il n'aime passionnément son pays.
Et tout ça en restant une femme d'affaires. Anna Chapman, ce n'est plus seulement une personne, c'est une marque, un label déposé. La jeune femme peut désormais donner son nom à tout et n'importe quoi. Des parfums, de la cire à moustache, de la bière, des culottes, de la vodka ou des poupées gonflables. Il n'y a pas de petit profit. Interviewé par RFI, Sergueï Alexachenko, professeur d'économie à Moscou, n'est pas dupe.
Chaque action de notre pouvoir est calculée. Il est clair qu'Anna Chapman est une marque en soi, une sorte d'appât pour attirer le gibier de la jeunesse, notamment la jeunesse désœuvrée. La Jeune Garde peut donc compter sur l'arrivée de nouveaux militants.
Pendant ce temps, aux États-Unis, par rancunier, les médias américains se passionnent pour celle qui a espionné leur pays. En mars 2011, la mystérieuse Anna Chapman accorde à la BBC une interview exclusive qui est largement reprise.
It's quite unusual for
C'est assez inhabituel qu'une ex-agent secrète devienne une star de la télévision.
Qui vous a dit que j'étais une agent secrète?
Donc vous niez avoir été une agent secrète?
Comme je l'ai dit dans le passé de nombreuses fois, je ne nierai jamais, je ne confirmerai jamais ce fait.
Pas question donc pour Anna Chapman de briser le mystère. Mais alors que la star poursuit son ascension en Russie, aux États-Unis, en octobre 2011, des informations sortent qui lèvent le voile sur les mystérieux illégaux expulsés un an plus tôt. Les Américains, médusés, découvrent les vidéos de surveillance déclassifiées par le FBI où l'on voit Anna Chapman et les autres espions, dans des magasins, dans des escaliers, des jardins publics, cacher des paquets et échanger des sacs d'argent. Sur ABC News, le journaliste demande à Frank Filiuzzi du FBI de commenter les vidéos.
On dirait des scènes de tous les jours. Une femme dans un café, quelqu'un dans un supermarché, deux types qui parlent près d'une cabine téléphonique. Ça faisait partie de leur technique.
Ce que vous voyez dans ces vidéos, c'est un mélange de méthodes de pointe d'espionnage et de techniques classiques de renseignement. Donc, dans ce qui a été filmé ici, nous avons des échanges discrets d'informations entre espions, des objets planqués. Nous avons réussi aussi, dans cette opération, à intercepter des communications cachées entre des agents russes opérant à l'intérieur du territoire américain, avec l'objectif clair de pénétrer le cercle des décideurs politiques des États-Unis.
Ce qu'on a appelé un peu vite des clowns, des pieds-nickelés de l'espionnage, étaient peut-être finalement moins inoffensifs qu'ils en avaient l'air. Dans les rapports déclassifiés du FBI, on découvre également le message, très solennel, que Moscou avait envoyé à chacun de ses agents illégaux.
Vous avez été envoyé aux États-Unis pour une mission de long terme. Votre université américaine, vos comptes en banque, Votre voiture, votre maison, tout cela sert à un objectif. Identifier et développer des sources dans les cercles politiques aux États-Unis et envoyer des renseignements au centre.
Le centre, c'est la direction du SVR, les services de renseignement russes à Moscou. Les 10 espions n'étaient donc pas du tout des bleus, mais bien la crème de l'espionnage russe, comme le dit Frank Filuzzi du FBI. Même Anna Chapman aurait reçu une formation très poussée pour devenir une illégale. Langues étrangères, radio-ondes courtes, écriture invisible, cryptologie, savoir déjouer la surveillance et aussi la stéganographie, c'est-à-dire l'art de faire passer un message inaperçu dans un autre message. Le FBI a découvert ainsi des centaines de messages secrets insérés dans de banales photos de famille envoyées par Internet. Plus grave, le centre de Moscou attendait aussi de ses agents des renseignements stratégiques sur la position de Barack Obama, qui vient d'arriver au pouvoir, concernant le désarmement nucléaire, la guerre en Afghanistan et l'Iran. Les agents ont-ils découvert des secrets? Les rapports déclassifiés ne le disent pas. En tout cas, assure Frank Filuzzi,
les agents russes étaient très près de pénétrer les cercles de décision politico-militaire aux États-Unis.
Ce qui, en juin 2010, a précipité leur arrestation, c'est l'information apportée par un agent double haut placé, Alexandre Poteyev, celui qui, depuis Moscou, dirigeait les illégaux. C'est lui qui, juste avant de s'enfuir de Russie, a dénoncé ses agents aux États-Unis. Ce qui explique sans doute la déclaration de Poutine à l'arrivée des illégaux à Moscou.
C'est un traître qui a permis l'arrestation de nos agents. Eux qui ont sacrifié leur vie pour la mère patrie. Comment ce porc va-t-il vivre avec ça toute sa vie? Comment regardera-t-il ses enfants? Les traîtres finissent toujours mal, dans un caniveau.
En juin 2011, Alexandre Poteyev, qui a réussi à se réfugier aux États-Unis, est condamné à Moscou par contumace, non pas à mourir dans un caniveau, mais à 25 ans de prison. Et c'est là qu'on retrouve Anna Chapman. La jeune femme a témoigné au procès de Poteyev, celui qui était son patron et qui l'a trahi aux Américains. C'est elle qui a apporté la preuve de sa culpabilité. Elle a expliqué au juge que lors du rendez-vous dans le café à New York qui a conduit à son arrestation, son interlocuteur, qui se faisait passer pour un agent russe et qui appartenait en réalité au FBI, avait utilisé un code que seul Poteyev connaissait. Une preuve irréfutable donc, apportée par le bon petit soldat Anna Chapman. On est décidément loin de l'image de la starlette un peu naïve, en mal d'aventure, tombée par hasard dans l'espionnage. Mais Anna Chapman n'en finit pas de changer d'image et de brouiller les pistes. Comme lorsqu'en 2014, elle participe à un film de propagande pour inciter les jeunes Russes à s'engager dans l'armée. La vidéo, diffusée sur la chaîne russe REN TV, est assez surréaliste.
Но это только кажется. На самом деле, именно на плацу солдаты учатся делать четко, слаженно и в команде.
Cheveux roux au vent, vernis à ongles impeccable, on voit Anna Chapman enfiler lassivement ses bottes et son uniforme, marcher au pas au milieu de beaux soldats et chanter les joies de la vie militaire.
C'est un jour spécial pour moi. Je suis heureuse et fière de pénétrer le cœur de l'armée de ma patrie.
Premier ou second degré? Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter.